Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Et oui, vous le savez désormais, Good Luxe, c'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Je vous retrouve en direct à 13h. Et quand enfin arrive le week-end, je retrouve mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Et cette semaine, on va se balader un peu. Nous vous emmenons à Grasse. Grasse, plus que jamais, capitale mondiale de la parfumerie. Quelques-unes des plus belles matières premières s'y trouvent encore aujourd'hui. Et les plus grandes maisons de luxe ont senti de nouveau la nécessité d'y ancrer leur parfum. Visite sur place dans un instant avec Jérôme Viau, il est le maire de Grasse, Julien Maubert, directeur de la division matières premières chez Robertet, et puis le parfumeur de chez Chanel, Olivier Polge. Mais pour l'heure, les nouveautés de la semaine.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et pour les nouveautés de la semaine, évidemment, on commence par la table, Emmanuel.
La table, très belle table, le Georges V, Palace Parisien, on le connaît. Troisième table, en moins d'un an quasiment, pour le Georges V. Il rejoint ce club des palaces parisiens qui affiche trois tables au compteur. Alors, on connaissait bien sûr le 5 de Christian Lesquer, triple étoilé Michelin depuis le mars dernier. L'hiver dernier, je vous avais parlé du Georges, à penchant plutôt transalpin, vient d'ouvrir l'Orangerie. L'Orangerie, 20 couverts seulement, une façon de véranda ouverte sur le patio de l'hôtel Georges V, avec quelques tables, quelques miettes de table, lorsque les beaux jours s'y prêteront. Et alors là, contre toute attente, on s'attendait un petit peu à la table accessoire, vous savez, la table annexe.
Un peu fraîcheur.
Pas du tout. Très grand chef. Malheureusement, je vous l'avoue, à l'instant même, j'ai oublié son nom. Mais allez vous balader sur le net, vous allez le découvrir. Vraiment, naissance d'un grand chef. Trois plats pour s'en convaincre. Crabe royal à l'eau de citron. Dit comme cela, c'est épuré, c'est très simple. Il faut voir la texture du crabe. Il faut voir cette eau de citron qui vient véritablement infuser la chair. C'est une réinvention du fameux crabe royal. La poulette du perche. La poulette du perche, elle est travaillée vraiment dans toute sa concision, dans toute l'intégrité de la chair. Une cuisson parfaite, travaillée avec des morilles, du vin d'Arbois. Un service... j'allais dire souple, félin, le marbre qui accompagne, qui est plaisant sous la semelle, très très belle adresse, très réussie. Et puis surtout, on se demande pourquoi encore aller dans des 3 étoiles Michelin qui affichent désormais 5 à 600 euros par personne au compteur, alors que là, on en est très vraiment pas loin et qu'on a à peu près le même plaisir pour moitié moins. Très belle adresse. Et puis surtout, on parle pas assez souvent du dressage des assiettes. Ici, vous allez voir ce que c'est que dresser une assiette. On n'est pas dans le chichi, on n'est pas dans le chichi pampan, dans le chipoteux, on n'est pas dans le, j'allais dire, dans le ringard, voire le chiant. Un grand travail du dressage d'assiettes. On mange d'abord avec les yeux.
Et c'est L'Orangerie au Georges V, donc. Et on ne quitte pas les palaces. Qui dit palace cette semaine dit Riss, bien sûr, place Vendôme. Après 4 ans de travaux, il avait fermé le 1er août 2012, ce bel hôtel ouvert en 1898, racheté par Mohamed Al-Fayed en 1979. Donc, 142 chambres désormais contre 159. Et encore, il n'y en a qu'un peu plus de 80 ouverts, parce que vous vous souvenez, il y a eu un petit incendie qui a retardé les travaux, plus le retard des travaux. Bref, pas grand changement, si ce n'est, on retrouve le grand classicisme du Riss, et la grande nouveauté, c'est qu'il est beaucoup plus ouvert sur la ville et beaucoup plus ouvert aux Parisiens. 3 bars, 3 restaurants, ouverts à partir de ce week-end au grand public, justement, ou d'ici quelques jours. La vraie nouveauté, ça va vous intéresser, Emmanuel, c'est du côté de la rue Cambon, le Riss Bar Esprit Art Déco. Service continu, toujours Colin Field, le roi du cocktail aux manettes. Il y a un petit salon de thé à la française aussi, le salon Proust. On trouve évidemment un spa à la hauteur, un spa Chanel. Les petites boutiques qui vont avec, exactement. Et puis 2 restos gastronomiques, un ouvert le midi, un ouvert le soir. Ça, c'est étonnant aussi, avec Nicolas Salle aux manettes.
Très attendu.
Évidemment. Et en revanche, je vous disais, pas grand-chose n'a changé. Ils ont conservé 80% du mobilier. C'est énorme.
Pour une raison simple, faut pas oublier que c'est un monument historique. Plus ou moins classé à l'inventaire ou autre, ils ont tout à fait raison. Je trouve que c'est peut-être, quand on voit le Georges V que j'aime beaucoup, ou le Plaza, qui ont peut-être allé très vite et un peu violemment parfois dans le dialogue entre l'ancien et le moderne. Je crois que le Riss a supposé les choses. On va voir. Il ferait bien de nous inviter pour qu'on fasse une émission.
Eh ben, c'est ce qu'on va essayer de faire. En tout cas, plutôt ouverture en grand secret. Et tout ceci va être distillé petit à petit. À mon avis, on en saura vraiment beaucoup plus et on pourra aller voir un peu plus amplement d'ici la rentrée.
Ils vont renouer avec un grand genre qui était celui du bal d'inauguration des palaces. Il est prévu pour l'automne prochain. C'est peut-être là qu'on ira se frotter au Ritz.
Voilà, on ira danser tous les deux, Emmanuel.
Ah, enfin.
Allez, Web de Luxe.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, Web de Luxe.
Sandy Prenois, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien.
Alors, très bien. Toujours
vous invitez à danser ou pas, vous?
C'est possible.
Bon, allez,
c'est possible, Emmanuel.
Allez,
à danser sur le web.
Danser
sur le web, avec quelques nouveautés encore cette semaine. D'abord, MrPorter.com destiné à ces messieurs, qui vient de signer une toute première collaboration avec la griffe française Maison Kitsune. 18 pièces, un thème, le voyage. Sont des pièces généralement assez neutres, sauf quand il y a des petites étiquettes de voyage, évidemment, London, Paris, Japan, que sais-je. Des fois, elles sont superposées par milliers, complètement déraisonnablement, sur des shorts, des chemises. Mais sinon, ce sont des belles pièces. Et d'ailleurs, même celle-ci, hein, c'est un style.
Voilà, le petit label Maison Kitsune.
Plus Mister Porter.
Plus ouais, Mister Porter. Et effectivement, c'est les rois de la collab. Donc chemise, polo, t-shirt, switch, blouson.
Beaucoup de choses. Ouais. Des mocassins bicolores, voilà.
Et bah parfait. Et puis Christian Louboutin.
Oui, alors Christian Louboutin qui vient de signer un film qui s'intitule Rouge Rutilant, film qui a été réalisé par Pictoresh. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on en avait parlé il y a très longtemps dans Goût de Luxe, qui est depuis devenue une agence assez reconnue qui crée des films pour les marques. L'idée, c'est évidemment de mettre en avant des produits de la ligne make-up beauté de la marque Louboutin, mais aussi de montrer les nouveautés maroquinerie et puis chaussures. Alors le pitch très rapidement, eh bien c'est dans un sidecar, une femme habillée toute de noir, son petit chien habillé en rouge, elle a des mocassins semelles rouges. Au loin, une vieille mini rouge. J'ai jamais dit autant le mot rouge dans une chronique.
C'est
Louboutin. Rouge. Tout est rouge dans ce film. Évidemment, les deux femmes n'arrivent pas à s'en sortir puisque ce sont des femmes et que les pannes ne sont pas destinées aux filles. Donc, elles repartent toutes les deux dans le petit sidecar, laissant la mini rouge de côté. Non, c'est rigolo, c'est bien fait, mais surtout, c'est très joli. Et puis, Louboutin, la marque, est assez spécialiste de ce genre de film. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas si longtemps que ça, elle avait fait une collaboration, vous le savez, avec Jaeger LeCoultre pour son 85e anniversaire. Il y avait
le 85e anniversaire de la Reverso.
De la Reverso. Il y avait le cadran de la Reverso avec un petit bracelet irisé signé par le chausseur star. Donc voilà, c'est pas nouveau, mais ce film est très joliment fait.
Mais Christian Louboutin sort de plus en plus de son univers des semelles rouges et il s'agrandit. Et puis une dernière petite chose, à l'hôtel.
À l'hôtel, effectivement, le boutique hôtel 4 étoiles La Lanterne vous accueille 12 rue de la Montagne Sainte-Geneviève dans le 5e arrondissement. C'est depuis quelques jours. Très bel espace, joli service, le hammam évidemment, le jardin intérieur, la piscine intérieure, le bar à vin et beaucoup d'autres choses, douches sensorielles. La province à Paris, c'est joliment dit. Au-delà de ça, toutes les chambres sont équipées d'un smartphone avec une application qui s'appelle Drink Me, ce qui va permettre aux clients de bénéficier d'une expérience complètement digitale au sein de leur séjour. Alors, City Guide, Conciergerie, appel illimité vers l'Europe, les États-Unis, le Canada. Voilà, beaucoup de choses comme ça. Drink Me via cette application.
Et nous aussi, on vous appelle toutes les semaines pour que vous reveniez. Merci infiniment, Sandy Prenois. Allez, on va terminer. On a plus beaucoup de temps. Alors, vous savez quoi? On va directement faire l'objet de la semaine et les objets de la semaine. La fête des pères, c'est le 19 juin.
Ah.
Du coup, j'ai fait une sélection. Non, d'ailleurs, j'ai pas fait une sélection. Moi, je m'embête pas. Je vous propose une adresse. Une adresse qui, elle, vous a fait une sélection pour vous, messieurs, vous les hommes. Ça s'appelle Trevor. C'est un concept store parisien dédié à l'art de vivre au masculin. Tout un programme. 10 rue de Picardie, dans le 3e arrondissement. Et donc, vous avez, par exemple, les foulards Petrus. Le couteau, ça va vous intéresser, Emmanuel. Dijo, ça s'appelle.
Dijo, oui, c'est ceux qui tatouent les couteaux.
Exactement, vous voyez, donc ce sont de jolis couteaux. Il y a par exemple des jeux aussi, il y a les portefeuilles Apto, les verres à whisky, là ça va vous intéresser aussi. Je ne sais pas comment on prononce en revanche, Stox, S-H-T-O-X, en tout cas des très jolis verres à whisky. Vous avez aussi des bijoux, la marque Antoine Essif pour hommes, la papeterie Archivia, j'en oublie, et des meilleurs, des soins pour hommes aussi, d'une marque néo-zélandaise. Une petite sélection pointue, un petit peu pour tous les prix. Et à mon avis, vous êtes en retard le 18 juin, vous allez directement chez Trevor, 10 rue de Picardie, dans le 3e.
Ça me va bien, c'est bien.
Ça vous va, c'est une bonne sélection. Des petites choses comme ça. Évidemment, il y a d'autres concept stores dans Paris, mais voilà, il y a aussi celui-là.
Le dernier, il a le mérite d'être aujourd'hui
voilà,
le premier.
Exactement. Allez, nous, on y va. On part directement pour Grasse, le grand soleil.
On a de l'air, des odeurs, des parfums.
On va humer les parfums. À tout de suite.
avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et des goûts de luxe au parfum, Grassois, cette semaine. Et oui, nous avons fait venir à nous la ville de Grasse et les acteurs de la parfumerie grassoise, puisque, comme le dit notre chroniqueur bien-être, eh bien, c'est un retour en Grasse. Pour en parler, nous sommes avec Jérôme Viau, maire de Grasse. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Julien Maubert, directeur de la division matières premières chez Robertet. Bonjour. Bonjour. Vous servez un petit peu dans les fameuses matières premières que l'on trouvait dans les belles plantes et fleurs odorantes que l'on trouve à Grasse. Et puis donc, notre chroniqueur parfum Lionel Payès. Bonjour Lionel.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe à Grasse alors ?
Alors, il se passe plein de choses. Alors, c'était une ville, monsieur le maire va m'en vouloir de dire que c'était une ville, en tout cas dans l'univers de la parfumerie, dans le domaine de la parfumerie, qui s'était un petit peu endormie pendant plusieurs décennies.
C'est la capitale mondiale.
Et qui est en train de redevenir vraiment, on peut le dire, la capitale mondiale. Alors, Grasse était d'abord une ville de tanneurs. On s'est dit, qu'est-ce qu'est le rapport entre le cuir et le parfum? Alors d'abord, il y a la note cuir qui est une note un peu mythique dans la parfumerie, pour cette raison-là d'ailleurs. Mais le cuir est très malodorant quand on le tanne. Donc il a fallu parfumer le cuir.
Il suffit d'aller dans les souks du côté du Malade ou du Macherec, c'est terrible.
Ah oui. Donc on a commencé à parfumer le cuir, notamment les gants. Notamment Catherine de Médicis qui a popularisé les gants parfumés à la cour de France. Et en fait, les taxes sur le cuir augmentant exponentiellement, les tanneurs ont cessé leur activité et sont devenus ces tanneurs qui étaient parfumeurs et gantiers.
Sont réfugiés dans le parfum.
Sont restés parfumeurs tout court. Donc ça date du XVIIe, fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle. Et à ce moment-là, l'industrie de Grasse s'est développée et c'est devenu une industrie majeure. Aujourd'hui, je crois que c'est 10 000 personnes à peu près.
Ah ouais.
Qui vivent de la parfumerie de façon directe ou indirecte.
C'est à partir de là qu'on a planté, du coup, parce que s'il y a aussi l'industrie de la parfumerie, c'est parce qu'on
a planté des fleurs à parfum, donc qu'on connaît. Donc il y a la rose de mai. Il y a un terroir grassois, on va en parler. Il y a un terroir particulier à Grasse, donc il y a la rose de mai, le jasmin pays ou jasmin de Grasse, mais aussi la tubéreuse, mais aussi le mimosa, mais aussi donc beaucoup des fleurs qu'on connaît et qu'on voit sur les flacons de parfum sont des fleurs grassoises.
Mmh. Et puis les grandes maisons. On va certainement les évoquer, qui sont nés, qui sont développés à Grasse. Alors, j'ai jamais bien compris pourquoi Gallimard, Fragonard
Gallimard.
Et Molinard sont les grandes maisons de parfums, tous signés en art, à RD, à Grasse. Mais c'est vrai que c'est les trois grandes maisons qui, historiquement, ont été un petit peu les mamelles grassoises, alors avec plus ou moins d'histoire et plus ou moins de bonheur par la suite.
Pour le meilleur et pour le pire, j'allais dire que pour un moment, c'était devenu un peu une vitrine touristique de la parfumerie, ces maisons-là, sans agressivité aucune.
C'est vrai qu'après, elles se sont un peu endormies sur leur passé.
Bien sûr.
Jérôme Viau, monsieur le maire, défendez-vous. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce que vous voulez en faire? Parce que j'ai l'impression que depuis que vous êtes arrivé à la mairie de Grasse, vous avez justement entendu un peu ce que disait Lionel, où vous êtes dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'elle redevienne cette magnifique capitale mondiale de la parfumerie.
Écoutez, oui, c'est une immense chance que d'être le maire de Grasse. C'est un bonheur de tous les jours. Et vous savez, d'être à la tête de cette ville qui est le berceau de la parfumerie contemporaine, qui aujourd'hui rassemble toutes les grandes maisons, qui additionne toutes les grandes forces et qui a ce savoir-faire en soi. Tout le monde nous envie, et qu'on soit de l'autre côté de la planète, à New York, à Tokyo, à Zurich, dans toutes les grandes villes, eh bien on parle de Grasse avec cette spécificité-là. Et pour moi, c'est la ligne de force, l'axe de force que je veux pour les prochaines années. On va mettre en œuvre, pour rassembler, pour pouvoir permettre à toutes ces grandes maisons de s'exprimer pleinement et que la ville de Grasse puisse compter sur cette force et cet avantage concurrentiel.
C'est-à-dire qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Il manque un petit peu de surface, peut-être ? Tout ça, c'est un peu réduit au fil des années ?
Écoutez, oui, il y a eu effectivement des cycles. Et aujourd'hui, on est dans un cycle très positif où on voit que toutes les grandes maisons, toutes les niches...
Ah oui, on va y revenir tout à l'heure,
s'intéressent à notre ville et à ses savoir-faire, à cette transformation du produit, de la matière première, à l'extraction. Et c'est pour nous, en tout cas, en tant que maire de Grasse, c'est quelque chose que je dois porter très haut et fort sur tous les plateaux télévision. Et comme je le suis aujourd'hui avec vous, et merci de votre invitation.
Mais ceci dit, Julien Maubert, vous êtes directeur de la division matières premières chez Robertet. Donc, les matières premières, vous y connaissez, puisque c'est vous qui vous occupez des approvisionnements pour Robertet, donc arômes et parfums.
Exactement.
Grasse, bien sûr, il y a le nom Grasse, mais est-ce que ça représente énormément aujourd'hui de votre approvisionnement ?
En termes d'approvisionnement, plus tant que ça. Ça veut dire que c'est vrai qu'à part les matières premières qu'on vient de citer, la rose, le jasmin, le mimosa, la tubéreuse, la parfumerie s'est extrêmement développée. Maintenant, on a des sourcings qui proviennent du monde entier. Mais le made in Grasse est toujours aussi important. Petite anecdote, on a des clients japonais, des clients chinois qui demandent à travailler avec notre centre grassois plutôt que notre filière locale pour justement avoir ce made in Grasse.
Alors c'est quoi ce made in Grasse ? Parce que vous dites, c'est plusieurs étapes le parfum. Ça commence depuis la matière première jusqu'au marketing.
Exactement.
Donc il y a cet instant où effectivement cette matière première, on la transforme. Une première fois, c'est là que j'interviens, j'imagine, ce fameux made in Grasse. Mais il consiste en quoi et en quoi il se différencie des made in du monde entier ?
J'ai envie de dire qu'il est double. Il est à la fois dans la première partie, qui est la partie de transformation, où on a une réelle expertise et on a la chance de trouver dans le bassin grassois des personnes qualifiées pour et des experts pour cette partie transformation. Et après, il y a toute la partie création, justement. Utiliser ces matières premières de la bonne façon pour pouvoir créer des parfums et des arômes de qualité. Et donc, c'est vrai que le bassin grassois est riche en personnes et en experts pouvant utiliser, transformer ces matières premières et leur donner un petit quelque chose de différent, de plus que peut-être nos voisins n'arrivent pas.
Lionel, vous confirmez ?
Oui, alors, surtout, ce qui est important dans le made in Grasse dont vous parlez, c'est le terroir grassois. En fait, une fleur, une rose ou un jasmin qui pousse à Grasse ne donnera pas olfactivement, donc dans un flacon de parfum, ne donnera pas la même odeur qu'une rose ou un jasmin planté en Bulgarie ou en Inde.
À la manière, de toute façon, ce qu'est un cépage dans
exactement,
le vin, un chardonnay, selon qu'il soit bourguignon ou californien, c'est pas du tout le même chardonnay.
C'est très vrai, je rebondirais même, il est triple.
C'est Rome Vion.
À Grasse, on a la culture de la plante à parfum, qui est le premier socle, je dirais, la production, et vous l'évoquez très bien en disant, quand on est à Grasse, en terre de Grasse, et dans ce territoire, on a des roses, des fleurs qui donnent plus qu'ailleurs, qui donnent eh bien, cette particularité-là, et c'est vraiment le premier grand socle. La deuxième chose, c'est le savoir-faire, et on a de grandes entreprises dont vous faites partie, qui ont ce savoir-faire-là ancestral, historique, que beaucoup nous envient et qui est précieusement gardé et conservé. Et puis, eh bien, la création du parfum, qui est le troisième grand volet. Et ces trois choses-là sont réunies à Grasse. Et on veut axer du début, comme vous l'évoquiez, jusqu'à la fin, de la culture de la plante à parfum, puisque c'est une de nos forces d'avoir cette terre qui est là, cette géographie qui est là, et ces éléments naturels qui nous donnent ces particularités.
Alors, le terroir, il est d'abord effectivement celui de la terre, mais c'est aussi un terroir humain. Avant de parler de la création du parfum, cette fameuse transformation, ce génie, on va dire, éventuellement, hein, c'est sous votre gouverne, hein, je ne suis pas un spécialiste, grassois, comment il se perpétue ? C'est parce que les hommes, un peu à la manière du vin, vous savez, dans le monde du champagne, par exemple, il y a des brévières, il y a des savoir-faire qui se passent de bouche à oreille, d'un maître de chai à un maître de chai, des savoir-faire. Est-ce que c'est un peu pareil à Grasse ? De génération en génération, on se passe des recettes, des livres, des équations, c'est la même chose ou pas ?
C'est tout à fait ça. Si vous regardez à la fois du côté producteur et du côté transformateur, vous vous rendrez compte que c'est des générations et des générations qui travaillent ensemble. Ça veut dire qu'au sein de Roberté...
les Chinois, ils sont mal. Voilà. Il va falloir qu'ils travaillent.
Au sein de Roberté, vous avez... les générations se succèdent. Même aujourd'hui, où on est dans
vous
une tendance
de... Vous en êtes le digne représentant.
Exactement. mais c'est vrai. Et donc ça, c'est vraiment déjà un facteur majeur, à mon avis, pour transmettre et pour pérenniser ce savoir-faire.
Et justement, pour continuer sur la comparaison avec le vin, avec le champagne que faisait Emmanuel, comment ça se passe ces champs ? Est-ce qu'ils appartiennent aux maisons ? Est-ce qu'il y a des producteurs sur place ? Comment c'est partagé ? Parce qu'on imagine cette matière première tellement rare, tellement de qualité. Comment ça se passe les relations ?
Il y a les deux. En fait, comme on le disait, il y a quelques années, il y a peut-être eu une période un peu de souffrance, je vais dire. Et on a eu la chance d'avoir des grandes maisons de parfums qui ont su investir, des producteurs aussi comme nous qui ont su contracter et s'engager auprès de cultivateurs pour garantir et pour pérenniser de la rose, du jasmin, de la tubéreuse et pour éviter qu'elles soient amenées à disparaître.
C'est ça, que tout ça ne se perde. On sent que vous avez pris conscience ensemble,
exactement.
Effectivement, avec quelques grandes maisons de luxe comme Chanel, on y reviendra tout à l'heure. Vous vouliez intervenir, Jean-Claude.
On a effectivement, et sur cette question de la terre agricole, un enjeu majeur pour aujourd'hui, mais surtout pour demain et dans les générations qui viennent. Et on est passé d'une période des années 30, des années 60, avec des volumes de production qui étaient bien différents. Dans les années 60, on avait 850 hectares qui étaient cultivés. Aujourd'hui, on a 30 hectares de roses, on a 7 hectares de jasmin. Et donc, on a vu, et la parfumerie a évolué, a muté. Et aujourd'hui, on assiste à un retour aux attentes des grandes maisons, aux attentes des industries, aux attentes des clients qui veulent que cette terre soit cultivée et puisse donner le meilleur d'elle-même pour la parfumerie. Et ça, ce sera le rôle de la collectivité, qui est la mairie ou la communauté d'agglomération, que d'aider, d'accompagner cette réflexion pour qu'on puisse retrouver des espaces. Alors, c'est pas facile.
Bon, non, on ne retrouvera pas 150. Oui,
parce que quand on est sur la Côte d'Azur...
La ville de Grasse, c'est aussi un peu élargi. Urbanistique.
Absolument. Et puis, on est sur on est dans un département, dans un lieu où la pression foncière, immobilière, où le mètre carré coûte cher...
Sous-préfecture des Alpes-Maritimes.
Absolument.
Et tout est dit.
Et donc, c'est la traduction d'une volonté politique qui est de dire, dans le futur plan local d'urbanisme, le PLU, de dire ces espaces-là seront dédiés à la terre agricole, à la culture de la plante à parfum, au maraîchage. Et c'est une volonté qu'on doit porter. Et ça fait pas forcément que des heureux. Mm-hmm. Derrière l'écran, il y a des auditeurs, des téléspectateurs qui nous regardent, qui vont dire « Ah ben moi, ça m'arrange pas. Ouais. » Parce que ces terres, elles doivent être constructibles. Mais c'est le chemin qu'on souhaite porter.
C'est 30%. C'est quoi votre objectif?
L'objectif, on est en train de le déterminer pour l'année 2017, puisqu'on va réformer notre PLU en 2017. Mais l'ambition est claire, c'est qu'on ait ces dialogues-là avec toutes les grandes maisons, avec les personnes qui sont en attente, et puis qu'on puisse inciter, comme on le fait avec l'association des fleurs d'exception, qui vient planter de la rose centifolia, qui vient planter du jasmin, et retrouver cette production locale qui est attendue, où il y a des débouchés. Et quand des personnes arrivent à vendre la totalité de leur production, ça doit nous inciter à créer des nouvelles activités agricoles.
Mais ceci dit, Julien Maubert, une fois que c'est planté, au bout de combien de temps vous pouvez l'utiliser?
Sur la rose damascène, sur la rose centifolia, pardon, on est sur à peu près 2 ans. Sur 2 ans, on peut avoir les premières fleurs et commencer à récolter. Sur le jasmin, c'est un peu plus long, je dirais 3-4 ans.
Ah ouais, donc c'est pas encore tout de suite. Ouais. Hein.
Et après, il y a comme il y a un dépérissement, il y a comme des plantes qu'il faut renouveler. Donc,
C'est un travail de longue haleine, là, hein, c'est un investissement sur le long terme.
Rapidement, pour mettre un petit peu, faire un peu rouler les airs d'un terroir, qu'est-ce qui fait que cette terre de Grasse puisse donner, alors est-ce que c'est le climat, la météo, l'ensoleillement, un peu à la manière, encore une fois, de ce qui se passe dans le monde de la vigne, où on sait qu'un coteau bourguignon, bordelais ou champenois va donner à un cépage son identité propre. Est-ce qu'à Grasse, il y a une terre et un ensoleillement, une météo propre qui fait que c'est une manière de micro-terroir unique au monde?
Bien sûr.
Absolument.
Le village grassois est coincé au pied d'une petite montagne. Et c'est vrai que régulièrement, il peut faire, par exemple, très beau sur la côte, par exemple à Cannes. Et vous avez à Grasse, il y a toujours un petit nuage. Il y a un climat qui est vraiment spécifique.
Un microclimat.
Et qui est propice à ça et qui fait d'ailleurs la richesse, l'histoire et la particularité grassoise.
Est-ce qu'on pourrait imaginer un peu à la manière de ce qui... Là, on parle beaucoup de savoir-faire. Est-ce qu'on pourrait imaginer, pour orchestrer le faire-savoir, ce qu'on réussit à faire les champenois et les bourguignons, c'est arriver à faire classer au patrimoine immatériel de l'UNESCO leur panorama, leur paysage et leur terre. Et Dieu sait si aujourd'hui...
C'est la prochaine étape. C'est une démarche qui a été initiée par mon prédécesseur Jean-Pierre Leleu. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'accompagne, je porte. Je souhaite obtenir cette labellisation, cette classification à ce patrimoine immatériel. D'abord pour respecter ce qu'on fait nos aînés, nos anciens. Toutes ces techniques d'extraction, de production, c'est quelque chose qui fait véritablement et qui, me semble-t-il, est très légitime à être sanctuarisé et protégé de cette manière. Et puis, ça donnera une formidable reconnaissance à Grasse et puis à tous les acteurs économiques de la ville et permettra d'être davantage mis en lumière. Et c'est aussi l'objectif que je porte dans ce classement.
Eh ben, très bien, vous reviendrez nous en parler dès que ce sera fait. Parce que c'est vrai que Lionel, tout ça s'accompagne aussi de changements. On parlait tout à l'heure de Chanel qui était un petit peu précurseur, mais aussi parce que les autres grandes maisons, Dior et Vuitton qui se met au parfum, arrivent aussi, s'installent et ont des demandes aussi en la matière. matière. En tout cas, merci infiniment à vous, messieurs, d'avoir été avec nous. Jérôme Mugio, maire de Grasse, et Julien Maubert, directeur de la division matières premières chez Robert. Merci beaucoup à vous.
On repart à Grasse.
On repart à Grasse.
Laissez-nous un petit peu de soleil, s'il vous plaît. Allez, on se retrouve tout de suite sur BFM Business.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et des goûts de luxe aux accents grassois cette semaine, alors que les grandes maisons de luxe ne cessent de redécouvrir les charmes de la capitale de la parfumerie. Nous sommes en compagnie d'Olivier Poche, bonjour.
Bonjour.
Le nez, le parfumeur de chez Chanel. Et puis nous sommes toujours avec Lionel Paillès, notre chroniqueur bien-être et parfum. Depuis combien de temps Chanel a ses arrière-cours, on peut dire, installés à Grasse, Olivier Polge?
Ça remonte en 1987, pour être précis. À cette époque, Chanel a fait un contrat d'exploitation avec la famille qui exploitait les plus grandes parcelles. C'est un domaine d'une vingtaine d'hectares de plantes à parfum qui commençait à se raréfier dans la région. Mmh. Étant donné que nous avons notre parfum, le numéro 5, qui a été créé avec ses essences.
Est-ce que le 5 a été créé avec ses essences? Est-ce qu'aujourd'hui encore, il profite, en tout cas pour partie,
justement,
de ce terroir?
C'est justement ce qui en fait sa particularité, entre autres.
Ça, c'est unique, ça, parce que comme on le voyait en première partie d'émission, ce terroir grassois se raréfie, même si la volonté de la mairie est de, à terme, regagner un peu du terrain, mais aujourd'hui c'est tout de même très peu d'hectares. Donc c'est un grand cru Chanel numéro 5, pas simplement par sa mythologie, mais parce que effectivement le jus qui l'accompagne et les matières qui l'accompagnent sont véritablement issus d'un terroir, c'est quasiment du locavorisme.
Exactement, oui.
Lionel,
Lionel.
C'est complètement unique. Alors, c'est le ce qui sert à faire l'extrait de numéro 5, parce que évidemment les parcelles dont parlait Olivier, c'est une vingtaine d'hectares.
C'est
très peu compte tenu de la production d'un parfum comme le numéro 5, qui est un parfum vendu dans le monde entier.
C'est pour ça que j'ai posé la question.
Donc l'idée, c'était de sauvegarder presque le diamant du numéro 5, qui est l'extrait de numéro 5. Et de dire, voilà, on va continuer à le produire exactement de la même façon, avec les mêmes fleurs, le jasmin, la rose de mai, de Grasse.
Exactement, je crois qu'il n'y a pas un parfum qui a été aussi bien entretenu que le numéro 5, qui n'a jamais connu comme ça d'interruption dans sa production avec les matières comme ça premières d'origine qui ont justement leur particularité.
Puisque vous êtes le nez de Chanel, juste pour le plaisir, le jardin du numéro 5 de Chanel, c'est quelles sont les matières qui entrent en composition? Je ne vous ai pas demandé une équation.
Les matières premières importantes pour Chanel en général, d'ailleurs, à l'image du numéro 5, ce sont les fleurs. Ce sont les fleurs, et parmi les fleurs, probablement plutôt le jasmin, qui était d'ailleurs à l'origine le réel intérêt de Chanel dans ce partenariat avec la famille Mulle, parce que les quantités de jasmin, qui est une fleur très délicate dans la région, il y avait des problèmes, une certaine maladie qui s'appelait le pourridie, enfin, il y avait un réel souci d'approvisionnement autour du jasmin. Puis s'est développé après un partenariat avec la rose. Et depuis quelques années, on a un petit peu étendu même nos cultures pour y introduire l'iris, le géranium et aussi la tubéreuse.
Et pourquoi vous faites ça?
Alors, à l'origine, il y avait juste un vrai souci de préservation. Il y a vraiment des entités olfactives comme ça bien particulières dont on a besoin pour nos parfums. Et petit à petit, on a dû du coup développer une certaine expertise dans l'extraction, la transformation de la fleur à l'absolu, qui du coup maintenant nous donne un peu l'occasion d'une sorte de laboratoire de recherche dans de nouvelles techniques d'extraction et même de culture.
Et d'ailleurs, c'est un peu dans la logique de la maison Chanel, parce que ce qui s'est passé dès 87, vous l'expliquez sur le parfum, dans ce partenariat avec les belles maisons grassoises, c'est aussi toute la logique de la maison Chanel en général, puisqu'on a fait beaucoup d'émissions, nous, tous les métiers d'art, c'est un peu grâce à Chanel, si certains plumassiers, si certains brodeurs existent encore aujourd'hui, puisqu'ils ont créé au fur et à mesure des partenariats entre différentes maisons. Donc, oui, de toute façon, il y a une logique maison, ça.
Exactement, on aime à dire qu'on fait du parfum de la fleur au flacon.
Lionel?
Et je trouve qu'il y a une particularité, parce qu'on s'imagine qu'il y a ces belles fleurs qui sont dans les champs et qu'on transforme et qui finissent dans le flacon. ce que fait Chanel, notamment avec l'iris, qui est pas une plante à parfum locale. L'iris, le bel iris pallida, il vient de Florence, enfin de la Toscane en général.
C'est pas très loin.
C'est de se dire finalement, l'iris florentin ou de Toscane n'est plus ce qu'il était parce que son processus de finalement de maturation a changé. Et ben nous, on va faire de l'iris à l'ancienne, j'allais dire, avec un processus de alors là qui est extrêmement long, donc long et coûteux. Que c'est une plante qui est très compliquée. En fait, l'iris, c'est le rhizome qu'on travaille et pas la fleur d'iris.
Mais il est devenu drôlement calé, Lionel Paillassin.
Et ça, c'est assez intéressant, parce que là, on est presque déconnecté de... Même si le numéro 19 de Chanel est un parfum qui utilise l'iris, mais en tout cas, c'est de se dire, voilà, il n'y a pas simplement les fleurs grassoises, mais aussi, on va sauvegarder des savoir-faire et on va revenir à la qualité initiale de ce qu'était l'iris... Il y a quelques décennies.
Oui, et tout ça amène à des détours intéressants. C'est vrai que l'iris est important. Le numéro 19 en est un très bon exemple, mais il y en a aussi un petit peu dans le numéro 5. Et quand on s'est lancé dans cette culture de l'iris, c'était assez amusant. La famille Mulle trouve un contact pour trouver des rhizomes, les iris pallida, qui sont les iris traditionnels florentins. Et voilà qu'une fois planté, on réalise qu'on a des fleurs de trois couleurs différentes, donc trois variétés différentes. Ce qui nous a amené à distiller ces trois fleurs, les rhizomes issus, voilà, pour un petit peu réfléchir à... Et du coup, on se retrouve comme ça à faire des recherches quasi botaniques.
C'est un laboratoire, c'est ça?
C'est un laboratoire de recherche, à mon sens, oui, tout à fait.
Mm-hmm. Et donc, vous faites, Olivier Poche, des allers-retours entre Paris, là où vous composez, et puis Grasse, parce que c'est important.
Fais des allers-retours, mais les échantillons
d'essence
se voyagent très bien aussi.
Mais j'imagine que c'est important d'être au contact de la matière première pour vous.
Définitivement, oui, c'est un contact régulier, quasi hebdomadaire. Ça fait partie de notre quotidien.
Alors, attention, là on parle beaucoup de Chanel qui, on le voit, était un peu précurseur de ce retour en grâce, comme vous dites, Lionel. Mais alors, ces dernières saisons, alors avec une accélération ces derniers mois, les autres grandes maisons du luxe, pour certaines de la parfumerie, s'y collent toutes. C'est le dernier endroit où l'on sent
de façon
grâce.
De façon assez différente. Alors, il y a l'histoire de Chanel qui n'est pas leur volonté n'a pas été de transférer un laboratoire de composition et de faire venir Olivier Polge à Grasse.
Ils sont accaparés un terroir.
Il y a des maisons qui ont fait ce choix-là. Alors il y a une dizaine d'années, Hermès qui avait installé son parfumeur à Cabris, donc c'était pas très loin de Grasse.
Jean-Claude Elena.
Et puis plus récemment, une maison comme Dior qui a réinvesti une maison qui était une maison de Christian Dior qui s'appelle la Colle Noire. Donc là, l'idée, c'est plutôt de réinvestir un lieu pour raconter une histoire. Donc là, on n'est plus dans la composition
plus dans le storytelling,
exactement. Et puis une maison comme Vuitton, alors qui va partager un...
Ça a arrêté une seconde sur Dior. Effectivement, la maison parfum Dior a acquis donc la Colle Noire et vous pensez que ça va, c'est uniquement du storytelling, cette histoire-là, où il va se passer quelque chose pour les parfums Dior?
Non, alors il y a quelques champs autour, il y a un partenariat. En fait, Dior avait commencé en 2008, je crois, un partenariat avec un lieu qui s'appelle le Domaine de Manon, où ils cultivent de la rose et du jasmin. Donc c'est 3 hectares à peu près. Donc leur volonté, c'était, je pense, plus d'investir un lieu qui était un lieu historique pour Dior, parce que c'était une des maisons de Christian Dior. Donc là, l'idée, je crois, dans l'esprit de Dior, c'était plutôt de se trouver une accroche, une histoire grassoise. Mm-hmm. Je pense que c'était ça l'idée.
Et puis,
Vuitton, c'est différent. C'est on va installer notre laboratoire, le lieu de création des parfums à Grasse. Donc c'est un lieu qui s'appelle les Fontaines Parfumées, qui vont partager d'ailleurs avec Dior, parce que c'est la maison LVMH. Donc là, l'idée était différente. Je pense que là, il fallait se donner une espèce de légitimité. Parce que Vuitton n'est pas une maison de parfum.
On n'en a jamais sorti, parce que le premier parfum est attendu à la rentrée prochaine.
Il y a eu trois parfums dans les années 20, mais
ils n'ont pas été très illégitime.
Mais là, l'idée, je crois, c'est plutôt de s'inscrire dans une histoire. Et ce qui prouve bien que Grasse redevient attractif, c'est que l'image de Grasse redevient une image positive pour l'industrie de la parfumerie, et notamment l'industrie du luxe.
Il y avait
ça aussi.
Justement, vous le disiez tout à l'heure, Chanel est là depuis 1987, véritablement, ce que vous nous racontiez tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, on en parlait avec Robertet aussi tout à l'heure, avec le maire de Grasse, que justement Grasse prenne conscience aujourd'hui comme vous l'avez fait il y a déjà quelques années, de la qualité de son terroir et de l'importance de préserver ce terroir et ce savoir-faire.
Alors oui, je pense que justement la particularité de Chanel, ça a été de s'investir sur les terres, hein, et on cultive véritablement des fleurs. C'est une partie de Grasse qui me semble être très importante, évidemment, mais ce serait oublier aussi le savoir-faire de Grasse. Et de parler de Grasse, justement, le développement de l'industrie grassoise dès la fin du 19e siècle, c'est justement les grassois qui sont partis partout dans le monde. Et ça, c'est important. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, le savoir-faire, le négoce des matières première passe quasiment toujours par Grasse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on développe des systèmes de distillation particuliers à l'autre du bout du monde pour le bois de Santal. Ce sont des scientifiques grassois qui nous aident à développer ça. Voilà, parler de Grasse, c'est parler aussi un petit peu du reste du monde.
Mais plus j'entends et plus on avance dans l'émission, plus c'est hallucinant de voir comment il y a une espèce de corrélation entre ce terroir, ce savoir-faire, cette intelligence grassoise du parfum et le monde du vin. Mais là où le monde du vin, et notamment les grands vignobles, hein, on pourrait parler bien sûr de la Bourgogne, du Bordelais, du Champenois, ont réussi au monde entier, non seulement à envoyer des hommes, comme vous le dites parfois même, des savoir-faire, et imposer leur image, autant Grasse, je ne sais pas si c'est de la discrétion, de la pudeur, à laisser passer ce temps-là du faire savoir pendant des années. Est-ce qu'il n'est pas trop tard ?
J'espère pas, c'est peut-être pour ça qu'on est tous là aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que effectivement toutes les grandes maisons, si Chanel bien évidemment, Vuitton, Hermès ou autre, ça peut faire caisse de résonance et participer à l'affaire. Vous en pensez, vous, l'arbitre des élégances?
C'est vrai qu'il faut rappeler que les parfumeurs, il y a une grande tradition parmi les parfumeurs. Dans la génération avant celle d'Olivier, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de grassois, pour ne pas dire quasiment que des grassois. Enfin, c'était vraiment il y avait des dynasties de parfumeurs qui continuent. On était parfumeurs ça change un petit peu. D'abord parce que peut-être que Grasse a laissé passer son tour aussi dans ce domaine-là. C'est que la grande école de référence de la parfumerie est à Versailles aujourd'hui.
Oui.
Et du coup, il y a plein de petits Parisiens, de Parisiennes, ou voire de gens issus de d'autres provinces qui deviennent parfumeurs aujourd'hui. Donc on est un peu moins dans une dynastie. Donc c'est vrai que ça aussi, ça s'est probablement perdu.
Grasse.
Ça redevient attractif aujourd'hui pour d'autres raisons, qui ne sont pas nécessairement des raisons familiales.
Olivier Paul, justement, vous parliez du savoir-faire tout à l'heure. Est-ce que vous pensez, Lionel disait à l'instant, finalement, il y a une grande école de parfumeurs à Versailles. Est-ce qu'il faut, si on veut devenir parfumeur, est-ce que c'est un passage obligé de passer à Versailles?
Oui, c'est inévitable. Toute personne qui travaille dans la parfumerie même, plus largement, passe à Grasse un jour.
Mm-hmm. Pour vous, il faut continuer à...
C'est obligé. S'il y a une réalité, il y a une réalité.
Même une réalité du marché.
Il y a une réalité du marché qui est toujours celle-là. Peut-être qu'on ne l'a pas assez dit.
Et ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Aujourd'hui, comment vous voyez évoluer les choses? Est-ce que justement, en voyant arriver les autres maisons, vous allez continuer à peut-être à travailler là-dessus, à agrandir un peu
le
vos terres ou à travailler le Made in Grasse? Comment vous imaginez les choses chez Chanel?
Écoutez, par rapport à nos besoins en fleurs, nous avons nos besoins sont satisfaits, mais comme je vous le disais, on continue comme ça à chercher, s'associer comme ça avec les personnes expertes en leur domaine, souvent venant de Grasse pour de nouveaux procédés d'extraction ou de nouvelles cultures. Chaque pays aussi, chaque terroir a sa spécificité.
Et vous avez aussi besoin des autres.
On a besoin. Voilà, il y a des plantes, l'ylang-ylang, qui est très important pour Chanel, est une fleur exotique par essence.
Il y a des procédés, parce que ce qu'on ne connaît pas assez, c'est que l'extraction des fleurs, c'est à la fois des procédés ancestraux comme la distillation, mais il y a aussi un renouvellement et une innovation perpétuelle dans ce domaine-là. Chanel, en ce moment, alors je pense qu'Olivier Paul n'en parlera pas, parce que c'est un procédé assez secret, mais travaille sur une nouvelle façon de travailler la tubéreuse, par exemple. Je pense que perpétuellement, en fait, que les parfumeurs se disent et les maisons se disent, on n'est pas satisfait du rendu olfactif, soit parce qu'il nous manque des notes hautes, basses, on ne retrouve pas l'odeur de la fleur dans le jardin. Donc finalement, on va innover dans le procédé d'extraction ou de distillation.
Le mot de la fin, Olivier Paul, justement, vous êtes toujours en quête d'innovation, toujours vers la perfection, j'imagine.
Oui.
J'espère.
Tout à fait. Il y a dans cette science de la de la distillation et de la transformation des matières premières, c'est un travail sans fin et dont la haute technologie comme ça nous amènera probablement de très belles réalisations.
Et juste une toute dernière question, peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais pour s'en rendre compte, donc on disait pour le Chanel numéro 5, combien de kilos de fleurs il faut pour une petite bouteille? On ne se rend jamais compte, est-ce que vous avez un chiffre comme ça?
Pour l'extrait du numéro 5, nous récoltons 40 tonnes de roses et 12 tonnes de jasmin.
D'accord.
Tous les ans, à la main.
À la main? Et voilà. Et là, ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'est l'excellence. Merci infiniment à vous, okay, Olivier Poche, donc parfumeur chez Chanel. Merci infiniment, Lionel Paillès, pour cette petite balade à Grasse. On a tous envie d'y aller. Effectivement, vous nous avez permis de soulever quelques lièvres, si j'ose dire, et de nous rappeler quelques luxes qui se trouvent à Grasse. Vous voulez rajouter, Manuel, quelque chose?
Simplement,
c'est fini,
que le temps d'un week-end, ça reste une très 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 jolie ville, dans cette fameuse Côte d'Azur, avec un musée de la parfumerie qui s'est réinventé il y a quelques saisons. Il était un peu désuet. Là, il est quand même rentré aujourd'hui dans une espèce de manière de modernité, avec beaucoup de scénographie, avec beaucoup d'interactions. Tout ce qu'on n'a pas pu dire, le musée répondra tout ou partie.
Il y a presque 2 millions de personnes chaque année qui passent par le musée. Ouais, c'est...
Merci beaucoup à vous. Allez, restez avec nous. Dans un instant, on continue notre petite balade, mais vers d'autres cieux. À tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goodlux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et Goodlux poursuit ses petites balades aujourd'hui dans un instant direction Amsterdam. Mais d'abord, le livre de la semaine, Emmanuel, et un hommage.
Un hommage. Il y a une semaine, disparaissait le plus grand, le champion, le King of the King, Mohamed Ali. J'en ai profité pour évoquer un livre qui est toujours disponible. Là aussi, un livre poids lourd. C'est un des rares livres hommage qui est marqué l'histoire de l'édition. On le doit aux éditions Tachène. Ce livre s'appelle Greatest of All Time, GOAT. C'est-à-dire que c'était un peu l'un des multiples surnoms de Mohamed Ali. C'est un livre qui existe en deux tailles chez Tachène. D'abord la taille king size, c'est-à-dire un livre dithyrambique, géant, poids lourd, monumental, à la fois par le format et par le contenu. À l'époque, quand il est sorti il y a quelques saisons, c'est plus de 100 photos inédites. Vous imaginez ce qu'est Mohamed Ali, il a été shooté par le monde entier. 100 photos inédites, fallait le trouver. Des essais qui avaient été écrits spécialement pour cet ouvrage. Des documents divers et variés, une iconographie dense, riche et vide. Le meilleur, une anthologie de ses interviews, et Dieu sait si l'homme avait de la parole. On rappelle que Mohamed Ali, c'est un grand champion sur le ring. C'est un grand militant avec tout l'esprit qu'il peut avoir derrière. Et puis c'était quand même une icône de style. C'est vraiment la phrase de Cyrano de Bergerac, hein, « Mes élégances, je les porte en moi et sur moi ». Ce livre, il y a quelques saisons, ils l'ont un petit peu revisité en taille légère. Vous pouvez aller le découvrir encore et l'acheter du côté d'une très belle librairie, la librairie Tachène. C'est dans le quartier Bussy, Saint-Germain-des-Prés. Allez, c'était bien le bel hommage qu'on pouvait encore rendre à Mohamed Ali. Pas nous, mais les éditions Tachène.
Et avant qu'il ne soit épuisé.
Ça, c'est un cadeau de la fête des pères.
Ah, voilà, ça, c'est un vrai bon cadeau de la fête des pères.
Je l'ai déjà, moi.
Allez, Goodlux d'ici et d'ailleurs.
Goodlux Paris, l'édition du week-end. D'ici et d'ailleurs.
Capucine Grabi, bonjour.
Bonjour Karine.
Poids lourd du voyage.
Oh, je sais pas comment vous
dire. Je sais pas comment je vais le prendre.
Ouais. Mymoonspots.com a redécouvert Amsterdam.
Amsterdam, effectivement, 20 ans que j'avais pas été.
20 ans.
Je peux vous dire, ouais, 20 ans, ouais, ça me rajeunit pas. Mais je peux vous dire que la ville a beaucoup changé. Il flotte un esprit un peu berlinois, un bouillonnement, une effervescence, je dirais presque même une excentricité. C'est étonnant parce que c'est quand même un tout petit pays, la Hollande. Amsterdam, petite ville miniature de poupée. Et en même temps, alors j'ai envie de faire une comparaison avec la Corée. Hein. Ça me rajeunit pas, mais j'ai vécu en Corée. La Corée, c'est un tout petit pays, mais qui est très en avance, très, très avant-gardiste sur les temps. On dit que c'est un pays d'early adopters. Et à Amsterdam, j'ai un petit peu senti ça, cet esprit très arty, très en avant. Je ne sais pas si vous le ressentez dans la nourriture. Mais en tout cas, ça rayonne et il se passe beaucoup de choses dans ce pays. Je conseille notamment d'aller se balader dans le quartier de Jordan
qui a beaucoup... Quartier des Bobos.
Oui, mais qui n'existait pas il y a 15, 20 ans ou 25 ans. Qui était pas aussi développé, qui est là, qui est plein de galeries, de concept stores, et c'est vraiment très sympa.
Et voilà. Donc deux adresses pour passer
alors,
un week-end.
Alors deux adresses dans le quartier de Jordan, le must, le spot du moment, là c'est le Overbranchouille, Morgan & Miss, c'est à la base un restaurant, on y mange divinement bien, ribs, cacahuètes, jus organique, acai bowl au petit déjeuner.
Quand vous me dites cacahuètes, il va falloir qu'elles se...
Allez voir, allez goûter et vous m'en direz des nouvelles.
Et après, vous permettez.
Et ensuite, donc c'est un restaurant, il y a une ambiance de feu et on peut aller y dormir. Il y a 8 chambres, très brutes, très authentiques, dans cette ancienne salle de gym qui a été complètement rénovée par une trentenaire qui a peur de rien, qui vient s'inspirer en France et qui dort toujours à l'Hôtel Amour d'ailleurs, qui s'inspire aussi des standards new-yorkais et qui a fait vraiment un petit bijou très spontané, très friendly avec sur RLF pour tout le monde. Morgan & Miss, très bonne question. Morgan, c'est le côté international, c'est un nom international, c'est le côté artiste, fashion. Et Miss, c'est le nom hollandais. Et elles sont deux filles dont le prénom commençait par M. Et elles ont voulu associer justement l'international avec le côté.
Si elles avaient pris Chlorine Michel, ça aurait fait M&M, ça craignait un peu.
Mais on offre beaucoup de M&M's
d'où
là-bas.
D'où les cacahuètes. Voilà.
D'où les cacahuètes, exactement.
Allez, l'autre
adresse, un peu plus convenue, plus sobre, le Andaz, petit frère de tous les Hayat, petit boutique hôtel. Alors j'avais adoré le boutique hôtel Andaz à Tokyo, j'ai voulu voir celui d'Amsterdam. Là aussi c'est assez réussi. Il faut quand même souligner la vraie volonté de ces grandes chaînes, un peu fatiguées, de se remettre en cause et de bousculer un peu les codes pour sortir autre chose.
Et là, pour se singulariser, c'est ça en fait.
Ils sont pas à l'extérieur, ils se sont mis vraiment dans le centre d'Amsterdam, vu sur un tout petit canal, pas un grand, un petit, vélo à disposition, service minimaliste. J'ai beaucoup aimé ce spot à Echelimen. Et donc la décoration, assurée par l'artiste et le créateur prolifique néerlandais Marcel Wenders, évidemment, qui a fait un endroit très gai, très accessible, très frais, très hype, évidemment. Et si vous aimez certaines pièces de Marcel Wenders, vous pouvez évidemment aller les acheter à la galerie. Il a créé sa galerie. Alors, je sais pas comment elle se prononce, si c'est Moï ou Moï. Moi, je le prononce comme l'île de Pâques, les Moï. La galerie Moï, c'est un saut vers le futur. Et donc, ce sont toutes les œuvres qui sont exposées au Andaz, Amsterdam, donc à échelle humaine, dans le cœur d'Amsterdam.
Donc, voilà. On a deux adresses d'hôtel. Et pour compléter tout,
un petit coup de cœur, ce petit guide des éditions Nomades qui est particulièrement bien fait sur cette édition-là, avec plein d'adresses,
donc,
de galeries.
Donc Amsterdam l'essentiel.
Amsterdam l'essentiel, Caroline Moisson aux éditions Nomades. On salue la singularité également
et
de
plus,
cette jolie petite maison d'édition.
C'est pocket, ça rentre dans la poche.
Et en plus, ça coûte pas cher.
Amsterdam, toujours un petit tour au stade de l'Ajax. C'est pas un club, c'est une légende. Je rappelle qu'on parlait de Mohamed Ali, Johan Cruyff est disparu cette année. Johan Cruyff, c'est Paris à Amsterdam. Je le dis, je le répète, allez faire un tour au stade de l'Ajax, vous allez raconter l'histoire d'un club absolument unique. Vous comprendrez pourquoi. Lorsqu'il y a des matchs de l'Ajax, il y a des drapeaux d'Israël. Et vous comprendrez, rien qu'en essayant de comprendre pourquoi il y a ces drapeaux d'Israël, toute la logique de ce club unique en Europe, unique au monde, et qui raconte beaucoup de l'histoire d'Amsterdam et de ce melting pot européen bien avant l'heure. Allez faire un tour à l'Ajax.
Merci. Alors là, c'était
plus.
La minute inattendue d'Emmanuel Rebin.
Je vais faire une émission sur le foot. Ça va pas traîner.
Merci beaucoup, Capucine Grabi. On retrouve tout ça sur mymoonspot.com, bien entendu. Allez, l'agenda.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end. L'agenda.
On commence par un comeback, Emmanuel.
Comeback, Simone Tondo, l'un des meilleurs chefs, jeunes chefs italiens de Paris. Il y a quelques temps, je vous parlais de Passerini, qui vient d'ouvrir une adresse dans le 11e. Il avait fermé son premier restaurant, Passerini, le revoilà de retour. En même temps, Simone Tondo, qui lui aussi avait ouvert il y a quelques saisons le fameux Rino dans le 11e arrondissement, avait bluffé tout son monde, disparu des radars, le voilà de retour rue de Côte à l'ancienne Gazzetta. Et là, comment dire, autant Passerini, c'est le chef italien dans toute son évidence, dans tout son côté charnel. Vraiment, des plats au contact.
Et
Tondo, c'est l'un des rares chefs italiens, je ne parle pas des grands chefs transalpins, mais à Paris, qui est capable de prouver que l'Italie est à la fois une cuisine de corps, qui parle à la chair, une cuisine d'évidence, une cuisine directe au produit, et quand elle veut, qui peut être très très cérébrale. C'est très attendu, ça se passe rue de Côte, à mon avis, c'est déjà complet pour quelques saisons, mais vous allez voir ce que c'est
mais
qu'un chef.
Mais ça ouvre tout juste là, bah, d'accord.
Ça ouvre tout juste, mais je peux vous dire que les fashionistas, là, ou les foodistas, vous d'ailleurs, c'est votre quartier, vous avez déjà des tables, ne racontez pas.
Allez, direction la Corse, Bernard et Mathieu Paco, donc père et fils, qui vont s'installer durant l'été au domaine de Murtoli, autant dire les plus belles, je dis les plus belles parce que c'est une série de bergeries hein, créée par Paul Canarelli, 19 bergeries enfouies dans la nature absolument magnifique dans la verdure. Alors, ils ont tout sur place, hein. Ils ont déjà la ferme avec le potager, la laiterie, la fromagerie, le moulin, la distillerie, le troupeau, enfin la totale. Et donc, Mathieu et Bernard Paco, du 4 juillet au 2 septembre, s'installent là-bas. C'est la première grande édition des chefs en résidence. Je vous donne juste deux petits plats. Emmanuel, je me la joue, Emmanuel Rubin. Blanc manger d'œuf à la népita, coulis de petits pois, miel sauvage de romarin.
Ça va.
Côte de veau tigrée, bonbons de tomme de brebis, fleurs de capre et citron confit, ou encore la pastilla contemporaine à la fleur de coriandre noisette de Cervione.
On rappelle, les Paco, père et fils, c'est 5 étoiles Michelin à eux tout seuls, ouais, à Paris, entre l'Ambroisie Place des Vosges et l'Hexagone.
Histoire et hexagone,
ils doivent en avoir peut-être même 6.
Eh ben voilà, eh ben on va terminer là-dessus. On vous laisse des étoiles plein les yeux. Emmanuel, c'est terminé pour aujourd'hui.
Si vous le dites.
Moi, je reste encore un petit peu avec vous. Le best-of de Good Luxe Paris dans un instant sur BFM Business.